Chapitre 2. Un an s'était écoulé depuis la naissance de leur fils. Jamais on n'avait eu dans le pays un plus bel été que celui qui venait de finir. Du soleil, de la chaleur, un ciel pur et lumineux. Puis le temps avait changé, sans être moins beau pour la saison. Les matinées avaient, il est vrai, des brumes transparentes, les nuits étaient claires et glacées, et les fleurs avaient disparu. Mais les feuilles des arbres, les lichens, les mousses et les fougères prenaient sous l'éclat du jour des teintes d'une richesse que n'avaient pas les roses. C'est, dit-on, l'époque où la nature se flétrit, où sa beauté va disparaître. Mais quelle splendeur dans son déclin, quel charme profond dans ses adieux! Ness, dans son empressement à rendre sa demeure plus agréable à son mari, était devenue jardinière. Et la petite cour, située devant la maison, était garnie de fleurs qu'elle avait été chercher dans la montagne, moins parce qu'elles étaient rares que parce qu'elles étaient charmantes. Un buisson d'églantier odorant s'élevait sous la fenêtre de la petite chambre de Ness et répandait son parfum balsamique jusque dans la grande salle où travaillait la jeune femme. L'enfant de Wayne, le plus adorable de tous les bébés qui ait jamais fait l'orgueil des parents les plus tendres, cria de joie et frappa dans ses petites mains lorsque sa mère le prit dans ses bras pour aller, sur le seuil de la porte, guetter l'arrivée du jeune homme qui se dirigeait vers Tiglas. Et quand tous les trois rentrèrent dans la maison, il était difficile de dire quel était le plus heureux de la famille. Owen prit l'enfant et se mit à jouer avec lui, pendant que la jeune femme, assise au pied du dressoir, travaillait à l'aiguille et racontait à son mari tout ce qui s'était passé depuis la dernière fois qu'il était venu. Les gentillesses et les malices du bébé, le résultat merveilleux de la pêche de la veille et les quelques nouvelles de Penmorfa qui étaient parvenues jusqu'à Tiglas. Elle avait observé que la figure de son mari s'attristait toutes les fois qu'il était question de Baudouin, et c'est pour cela qu'elle se gardait bien d'en parler. Jamais cette réserve n'avait été plus opportune, car depuis quelque temps, surtout, le jeune Griffith avait eu beaucoup à souffrir de l'humeur de son père, qui devenait de plus en plus irascible. Comme il causait avec abandon, caressant l'enfant tour à tour, la chambre s'assombrit tout à coup, l'ombre passa rapidement, et avant qu'ils eussent pu en rechercher la cause, ils se trouvèrent en face du squire de Baudouin. Celui-ci arrêta d'abord sur son fils un regard étonné, en voyant l'expression qui couvrait les traits de l'heureux père, si différent dans sa joie de ceux qu'il était au manoir. Puis il se tourna du côté de Ness, qui, tremblante, avait laissé tomber son ouvrage, et qui, n'osant pas bouger, attachait ses yeux sur son mari, comme pour lui demander protection. Le squire de Baudouin, l'œil en feu, la figure pâle, tant sa colère était grande, la contempla en silence pendant un moment, et s'adressant ensuite à son fils, « Quelle est cette femme ? » demanda-t-il avec effort. Owen hésita un instant, puis d'une voix ferme et douce, « Mon père, dit-il, cette femme est la mienne. » Il tenta de s'excuser d'avoir été si longtemps sans parler de son mariage, et demandait à son père de lui pardonner cette faute. Mais le squire ne voulut rien entendre. « Vous l'avez épousée ? » s'écria-t-il, écumant de fureur. « Épousée, Ness Pritchard ! Il me l'avait bien dit ! Et vous osez rester devant moi comme si vous n'étiez pas à jamais déshonoré par cette union ? L'infâme prostituée, dans sa feinte modestie, prend déjà l'air de grandeur qui convient à la future maîtresse de Baudouin. Mais je remuerai ciel et terre avant que cette femme indigne ternisse de son ombre le seuil de ma maison. Sir Griffith, s'écria Owen à son tour, quiconque vous a dit que Ness Pritchard était une prostituée vous a fait un mensonge aussi noir que l'enfer, ajouta-t-il d'une voix tonnante en faisant un pas vers le squire. Elle est aussi pure que celle que vous aimez, reprit-il. J'en prends Dieu à témoin. Aussi pure que la mère qui m'a donné le jour et qui est partie de ce monde où je suis restée seule pour lutter contre les maux de la vie. Croyez-moi, je vous le répète, elle est pure comme la sainte que vous avez tant pleurée. Pauvre fou ! Répliqua Sir Griffith. Au même instant, le petit Owen, qui regardait son père, ne pouvant comprendre ce qui avait pu enflammer ce regard où il n'avait jamais vu que douceur et tendresse, attira l'attention du squire, dont il augmenta la fureur. « Oui, pauvre fou !» continua le gentilhomme. « pauvre sot qui presse sur sa poitrine l'enfant d'un autre comme si c'était son fils !» Owen embrassa le pauvre ange effrayé et ne put s'empêcher de sourire des paroles de son père. Sir Griffith s'en aperçut. « Je vous ordonne, reprit-il avec rage, de vous dessaisir à l'instant du rejeton de cette misérable créature. » Dans sa fureur, qui croissait de plus en plus, voyant que son fils était loin de lui obéir, il arracha le pauvre enfant des bras qu'il enlaçait avec amour et, le jetant à sa mère, quitta la maison sans ajouter une parole. Ness, qui pendant toute la durée de cette horrible scène avait conservé la pâleur et l'immobilité du marbre, tendit les bras pour recueillir son enfant. Le cher ange ne devait pas atteindre le refuge que lui ouvrait sa mère. Lancé avec force par Sir Griffith, qui, dans sa violence, n'avait pas bien visé, il alla frapper contre l'angle du dressoir et tomba sur la pierre dont la salle était carrelée. Owen se précipita vers lui, mais au moment où il se baissait pour ramasser son fils, les yeux vitrés du pauvre petit eurent un mouvement convulsif et ses lèvres, encore chaudes des baisers paternels, laissèrent échapper son dernier souffle. Ness glissa immédiatement de sa chaise et resta inanimé auprès du corps de son enfant, insensible comme lui au désespoir d'Owen et à ses instances passionnées. Pauvre père, pauvre amant, il était si heureux dans la plénitude de son amour. À peine un quart d'heure s'était-il écoulé depuis l'instant où lui souriait son fils. Il croyait voir sur cette figure enfantine les promesses brillantes d'un long avenir, et maintenant ses yeux, où il regardait s'éveiller l'intelligence, étaient fermés pour toujours. Ce visage pâle ne sourirait plus en le voyant, et les petits bras qui se tendaient à son approche étaient roidis par la mort. Ces cris si doux que lui adressait l'enfant adoré viendraient troubler ses rêves, mais il ne les entendrait plus à son réveil. Et près du petit cadavre gisait la pauvre mère, dont le cœur brisé avait perdu jusqu'au sentiment de la douleur. Owen s'efforça de lutter contre le vertige qui s'emparait de lui et chercha, mais en vain, à rappeler Ness à elle-même. Midi allait sonner. Elise Pritchard revint à la maison. Il était bien loin de s'attendre au spectacle qui frappa ses yeux lorsqu'il entra dans la salle. Toutefois, quel que fût l'horrible coup dont il se sentit frappé, il sut prendre pour faire revenir sa fille de meilleurs moyens qu'Owen. La pauvre Ness donna enfin quelques signes de vie. On la porta dans sa chambre où elle s'endormit bientôt sans avoir entièrement recouvré sa connaissance. Owen Griffith, oppressé par le poids de sa douleur, dégagea sa main qu'elle retenait dans la sienne et posant un long et doux baiser sur le front pâle de la malheureuse mère, sortit précipitamment et quitta la maison. Près de la base de Moelgest, à un quart de mille de Tiglas, était alors un petit bois solitaire et sauvage que l'églantier, les ronces et la brionne rendaient presque impénétrable. Vers le milieu du fourré se trouvait une pièce d'eau transparente où se mirait l'azur du ciel. De larges feuilles de nénuphar flottaient sur les bords et quand le soleil répandait à midi sa lumière étincelante, les fleurs montaient du sein des eaux pour saluer l'astre glorieux. Des sons variés vous charmaient de toutes parts dans ce petit bois plein de fraîcheur. Les oiseaux y gazouillaient dans l'ombre, des milliers d'insectes bourdonnaient sans cesse en voltigeant au-dessus du bassin limpide, une cascade mêlait son murmure au souffle du vent dans les branches, et le bêlement lointain des moutons qui paissaient au sommet de la montagne s'ajoutait parfois à cette harmonie de la nature. Ce lieu solitaire avait été l'une des retraites favorites d'Owen, à l'époque où, seul au monde, il souffrait de n'avoir personne qui répondît à son amour, et c'est là qu'il vint se réfugier après son départ de Tiglas, étouffant le cri de son désespoir, jusqu'au moment où il eut pénétré dans l'endroit qu'il cherchait. C'était l'heure du jour où il arrive souvent que le temps change tout à coup. Au lieu de refléter le ciel pur qui s'y mirait dans la matinée, la pièce d'eau reproduisait les nuages d'un bleu d'ardoise qui passaient au-dessus d'elle. Les arbres, secoués avec violence, abandonnaient leurs feuilles mortes qui tourbillonnaient dans l'air, et les sanglots du vent, qui balayaient les marécages et sifflaient au milieu des rochers, étaient la seule musique de cette solitude parfois si harmonieuse. Les nuages crevèrent, la pluie tomba par torrents. Owen ne s'en aperçut même pas. Assis sur la terre inondée, la figure dans ses mains, il employait toutes ses forces à retenir son sang qui se précipitait avec furie et bouillonnait dans son cerveau de manière à le rendre fou. Le spectre de son enfant se dressait devant lui et semblait crier vengeance. Puis apparaissait la victime désignée à sa fureur et le malheureux frissonnait en reconnaissant son père. Il essayait de ne plus penser, il cherchait à s'étourdir par l'excès de la douleur. Mais le flot sanglant tourbillonnait dans sa tête et la double image se dessinait, d'autant plus nette à ses yeux qu'il s'efforçait de l'écarter. À la fin cependant, parvenu à se maîtriser, il obligea son esprit à chercher ce qui lui restait à faire. Il n'avait pas vu que le squire était sorti de la maison avant de pouvoir connaître la mort du pauvre enfant, et dans la persuasion où il était que Sir Griffin n'ignorait pas ce malheur, il voulait aller le trouver, montrer son désespoir et lui imposer par la puissance et la dignité de son chagrin. Mais il n'osait pas revoir son père, il se défiait de lui-même, l'ancienne prophétie lui revenait dans toute son horreur. Il craignait sa destinée. Mieux valait, pensait Owen, quitter le pays pour toujours, aller habiter quelque ville où sa femme oublierait leur premier-né et qui lui fournirait à lui-même les ressources nécessaires pour qu'il pût gagner leur vie. Mais quand il voulut songer aux moyens d'exécuter ce projet, il se rappela que tout son argent, et à cet égard il n'avait pas à se plaindre de Sir Griffith, qui avait toujours été généreux, il se rappela, dis-je, que tout son argent était enfermé dans l'un des meubles qu'il avait au manoir. En vain essaya-t-il de tourner la difficulté. La somme qu'il possédait lui était indispensable. Il fallait absolument qu'il allât à Bonowen. Il s'y résigna donc, espérant éviter la présence de son père. Le malheureux se leva et prit un chemin détourné pour se rendre au manoir. La maison paraissait plus sombre, plus désolée qu'à l'ordinaire sous la pluie torrentielle, et cependant il regrettait de la quitter pour toujours. Il entra par une porte dérobée, ouvrant dans un passage qui conduisait à la pièce où il avait ses livres, ses instruments de chasse et de pêche, ses papiers, en un mot, tout ce qui lui appartenait. Arrivé dans cette chambre, il chercha en toute hâte les objets qu'il voulait emporter, car non seulement il avait peur qu'on ne vînt l'interrompre, mais il éprouvait un désir fébrile de partir le soir même, en supposant que sa femme eût la force de voyager. Tout en choisissant les quelques articles dont il croyait avoir besoin, il se demandait quels seraient les sentiments de son père lorsque celui-ci apprendrait que le fils qu'il avait adoré autrefois l'abandonnait pour toujours. Ce départ lui ferait-il regretter sa conduite? Penserait-il avec émotion à l'enfant plein de tendresse qui jadis accompagnait ses pas? Ou bien, hélas, se réjouirait-il avec sa femme de ne plus avoir entre eux l'héritier dont la présence était un obstacle à leur repos? Puis il songeait à la pauvre neige dont l'enfant n'était plus et qui ne connaissait pas encore toute l'étendue de son malheur. Pauvre mère, si aimante et si dévouée! Il se la figurait dans un autre pays, regrettant ses montagnes et ne voulant pas être consolé parce qu'elle avait perdu son enfant. La nostalgie qui pouvait s'emparer de celle qu'il aimait n'ébranla même pas la résolution qu'Owen avait prise, tant il avait à cœur de s'éloigner de son père afin d'échapper à la destinée qui lui était prédite et qu'il accomplirait fatalement s'il restait dans le voisinage du meurtrier de son fils. Il venait de terminer ses préparatifs et ne songeait plus qu'à rejoindre la pauvre nièce quand la porte s'ouvrit doucement et laissa passer la tête malicieuse du petit Robert qui venait dans cette chambre avec l'intention d'y prendre quelque chose. Il hésita d'abord en apercevant Owen, puis retrouvant toute son audace, il vint poser la main sur le bras du jeune homme et lui dit avec une figure narquoise « Comment va ta bonne amie, Nièce Pritchard ?» Le bambin se préparait à jouir de la confusion d'Owen, mais il fut terrifié par l'éclair qui traversa les yeux du jeune homme et courut vers la porte où, se croyant en sûreté, il continua ses railleries de plus en plus insultantes. Ce n'est qu'un enfant, il ne comprend pas la portée de ses paroles, se disait Owen en serrant son fusil d'une main convulsive et en cherchant à dominer l'orage qui s'élevait dans son cœur. Toutefois, lorsque Robert, encouragé par l'impunité, dirigea ses injures contre l'innocent qui venait de mourir. Owen ne se contint plus et, saisissant le railleur impitoyable, il le souffleta d'une main vigoureuse. Aussitôt revenu à lui-même, il lâcha l'enfant et vit avec horreur le petit Robert glisser sur le carreau. Le fait est qu'étourdi par le coup qu'il venait de recevoir et surtout effrayé, le gamin avait jugé plus sage de paraître évanoui. Plein de remords et se reprochant amèrement sa violence, Owen avait ramassé Robert et le traîné vers un lit placé dans un coin de la chambre lorsqu'entra Sir Griffith. Le matin de ce jour fatal, le squire était la seule personne du manoir pour qui le mariage de l'héritier de Bodowen avec Nes Pritchard fut encore une chose secrète. On avait remarqué les visites fréquentes du jeune homme au pêcheur de Tiglas, le changement qui s'était opéré dans la conduite et dans les manières de Nes, et l'on avait fini par découvrir la vérité. Mais l'influence de Mrs. Griffith était si grande que personne n'avait osé dire un mot de cette affaire à Sir Griffith avant qu'elle eût jugé convenable de lui en parler elle-même. Or, il se trouva que, d'après elle, le temps était venu de faire connaître à son mari la mésalliance dont Owen s'était rendu coupable. Elle arriva tout en pleurs, se fit arracher la triste nouvelle, s'étendit avec complaisance sur la réputation de légèreté qu'avait autrefois la jolie Ness, et ne manqua pas d'insinuer que, même aujourd'hui, c'était une coureuse de bocages et de bruyères, suivant l'expression consacrée dans le pays de Galles pour désigner une femme perdue. Sir Griffith était dirigé immédiatement vers Tiglas sans avoir d'autre but que d'épancher sa colère. Nous avons assisté à la déplorable scène qui était résultée de cette démarche. Il était sorti du cottage plus irrité que jamais et venait de rentrer chez lui où les insinuations perfides de sa femme avaient aigri son ressentiment. C'est alors qu'il distingua la voix de Robert, probablement en dispute avec quelqu'un. Il accourut vers l'endroit où le bruit se faisait entendre et vit le corps de son favori traîné par le coupable Owen, dont le visage contracté annonçait une colère récente. Quelques mots poignants dits à voix basse exprimèrent l'indignation du squire. Et tandis qu'Owen, silencieux et fier, dédaignait de se justifier auprès de celui dont il avait bien autrement à se plaindre, Mrs. Griffith parut à son tour dans la chambre. Le squire, en voyant l'émotion toute naturelle de sa femme, sentit redoubler sa fureur, et, dans son aveuglement, il se persuada que la violence dont Owen avait fait preuve à l'égard du petit Robert était préméditée. Il appela ses domestiques à son aide, afin, disait-il, de préserver sa vie et celle de sa femme des attaques de son fils. Les regards des valets étonnés allaient de Mrs. Griffith, qui sanglotait en serrant le bambin sur son cœur, au visage furieux du squire pour s'arrêter sur le malheureux Owen qui n'avait pas même entendu les paroles de son père. Car devant ses yeux gisait le cadavre d'un petit enfant. Et dans les cris de Mrs. Griffith, il entendait les gémissements d'une pauvre mère dont la douleur était sans espoir. Si Owen avait été livré à sa propre nature, il aurait cherché, à force de soins et de tendresse pour Robert, à expier la faute qu'il avait commise dans un moment de violence. Mais, irrité par l'injustice, endurci par sa propre douleur, il ne chercha pas même à s'excuser et ne fit aucun effort pour échapper à l'emprisonnement auquel Sir Griffith le condamna, jusqu'à ce qu'un chirurgien eût examiné la contusion de Robert. Ce n'est qu'en entendant fermer et barrer la porte sur lui, comme on eût fait pour s'assurer d'une bête féroce, que l'abandon où se trouvait la pauvre Ness revint à la mémoire du prisonnier. Comme elle devait souffrir de ne pas l'avoir près d'elle, comme elle devait l'appeler au milieu de ses larmes. Et que pensait-elle de son absence? Ne supposait-elle pas qu'il avait obéi à son père et qu'il lui reprenait son amour au moment où elle en avait le plus besoin? Cette pensée le rendait fou et il chercha autour de lui un moyen d'évasion quelconque. On l'avait enfermé au premier étage dans une petite chambre dépourvue de meubles et dont la porte massive aurait défié les efforts de 10 hommes vigoureux. Mais la fenêtre, comme la plupart des maisons galloises, était placée au-dessus du foyer. Le corps de cheminée, qui se séparait en 2 branches, faisait saillie à l'extérieur et, de ce côté, la fuite était possible, même pour un homme moins alerte et moins désespéré que notre captif. La pluie avait cessé et de pâles rayons de soleil traversaient l'air humide, pendant qu'Owen, échappé de sa prison par la voie que nous avons décrite, gagnait à la dérobée un endroit du parc donnant sur des rochers, d'où il était souvent descendu, au moyen d'une corde bien assujettie, dans un petit bateau à voile que son père lui avait donné jadis et qui était amarré au pied de la falaise. Il avait choisi cet endroit pour y mettre son canot, parce que c'était le point d'abordage le plus rapproché du manoir. Mais pour y arriver, sans traverser une grande pelouse qui se déployait devant la maison, il fallait faire un long détour en se glissant au milieu d'un taillis dont les cépés avaient à peine la hauteur d'un arbrisseau. Courbé vers la terre, le fugitif avançait peu à peu, l'oreille au guet et cherchant l'endroit le plus épais du fourré. Tout à coup, il découvrit, à travers les feuilles, son père et sa belle-mère qui se promenaient dans une allée voisine. Le squire, évidemment, s'efforçait de calmer sa femme, qui parlait avec animation, et le pressait avec instance de lui accorder ce qu'elle demandait. Ils s'éloignèrent. Owen respira, fit quelques pas, et fut obligé de s'arrêter de nouveau pour ne pas être aperçu de la cuisinière qui revenait de cueillir quelque chose au potager. C'est ainsi que l'héritier de Baudouin, espérant fuir la malédiction qui pesait sur sa famille, s'éloignait pour toujours de la demeure de ses ancêtres. Il finit par atteindre le plateau qui couronnait la falaise, reprit haleine pendant quelques minutes et se baissa pour trouver la corde qui devait lui servir d'échelle. Cette corde, roulée avec soin, était placée dans un trou assez large et recouverte d'une énorme dalle composée d'un fragment de roche. Ainsi, penché vers le sol et faisant un violent effort pour soulever la lourde pierre, Owen n'aperçut pas Sir Griffiths qui s'était approché. Le squire le saisit brusquement par le bras avant qu'il pût savoir quel était celui qui s'emparait de sa personne. La lutte s'engagea. Owen chercha naturellement à se défendre et, déployant toute sa vigueur, il poussa son père sur la dalle qu'il venait de déplacer et qui se trouvait en équilibre au bord de la falaise. Sir Griffith disparut dans les flots. Owen, perdant le point d'appui que lui fournissait le squire, le suivit dans l'abîme, n'ayant toutefois d'autre pensée que de venir au secours de son père. Mais celui-ci, en tombant, s'était frappé la tête contre l'angle du bateau et s'était tué sur le coup. Owen, qui ne s'en doutait pas, n'avait qu'un but, empêcher l'accomplissement de la prophétie. Il plongea, revint à la surface de l'eau, plongea encore et vit son père étendu au fond de la baie. Il le saisit, le ramena près de la barque, l'y jeta par un effort désespéré et ne se hissa lui-même dans le canot que par l'instinct qui veille le dernier à la conservation de l'individu. Bientôt, prenant ses sens, il regarda Sir Griffith, dont le crâne était ouvert et la figure livide. Il mit la main sur la poitrine du blessé, le cœur ne battait plus. « mon père !» s'écria-t-il, « revenez à la vie ! Jamais vous n'avez su combien je vous ai aimé, combien je vous aimerais encore !» Le souvenir de son enfant arrêta les paroles sur ses lèvres. « Vous ignoriez comment il a cessé de vivre !» reprit-il après un instant d'angoisse. « Oh, mon Dieu, si j'avais eu la patience de vous le dire, si vous aviez eu celle de m'entendre ! Et maintenant, tout est fini !» Fut-elle attirée par cette voix plaintive, ou s'étant aperçue de l'évasion du prisonnier, cherchait-elle son mari pour l'informer du fait ? C'est ce que je ne saurais dire. Mais au sommet des rochers, précisément au-dessus de lui, Owen entendit sa belle-mère appeler Sir Griffiths à plusieurs reprises. Il garda le silence et poussa le canot tout près de la côte, à un endroit où des broussailles qui s'avançaient au-dessus de la baie ne permettaient pas qu'on pût le découvrir du rivage. Pour mieux se cacher, il s'étendit à côté du cadavre de Sir Griffith et se rappela l'époque où, dans son enfance, il partageait le lit de son père, qu'il éveillait au point du jour pour lui entendre raconter d'anciennes légendes. Combien de temps resta-t-il ainsi, le corps glacé, la tête en feu, se débattant contre l'horreur d'un fait qui réalisait l'affreux cauchemar d'autrefois ? Il n'en sut rien lui-même. À la fin, cependant, le souvenir de la pauvre Nes fit diversion à cette horrible pensée et le tira de sa léthargie douloureuse. Il déplia une voile qu'il étendit sur le corps de son père. Et, de ses mains roidies prenant les rames, il longea la côte en se dirigeant vers Cricaeth. Lorsqu'il fut arrivé près d'un endroit où les rochers, en s'ouvrant, formaient une espèce de gorge étroite, il y poussa l'esquif, jeta l'ancre tout près du rivage et gravit la côte escarpée. Il se disait en lui-même qu'il serait bien heureux de tomber à la mer où il trouverait le repos et l'oubli. Et cependant, il cherchait par instinct les endroits les plus sûrs pour y poser les mains et les pieds, jusqu'à ce qu'il fût arrivé sain et sauf au terme de l'escalade. Owen se mit alors à courir comme un fou dans la direction de Tiglas. Puis il s'arrêta, revint sur ses pas avec la même vitesse, se jeta sur l'herbe et, rampant jusqu'au bord du précipice, attacha un regard avide sur le bateau afin de voir s'il n'y découvrirait pas un signe, un mouvement qui annonçât la vie. Tout restait immobile. Cependant, la lumière qui se jouait dans les plis du linceul lui fit croire qu'il avait vu remuer quelque chose. Il glissa le long du rocher, plongea dans la mer et gagna le bateau à la nage. Pendant une minute ou deux, il regarda la toile sans oser la soulever. Puis, saisi de terreur, en pensant qu'il pouvait laisser éteindre le dernier souffle qui resta chez son père, il écarta tout à coup le voile funèbre. Les yeux du cadavre le contemplèrent avec la fixité de la mort. Tout était bien fini. Owen ferma les paupières, rapprocha les lèvres l'une de l'autre et baisa respectueusement le front pâle de Sir Griffith. « C'était ma destinée, dit-il. Mieux aurait valu, mon père, que je fusse mort en naissant. » Le jour s'éteignait peu à peu. Qui saura dire combien sa lumière est précieuse? Owen gravit de nouveau la falaise et reprit le chemin de Tiglas. « Enfin, vous voilà donc, lui dit Ellis comme il entrait dans le cottage. « Ce n'est pas un homme de ma condition qui laisserait sa femme pleurer seule auprès du corps de son enfant. Ce n'est pas nous qui laisserions notre père tuer sous nos yeux notre propre fils. Oh, j'ai bien envie de vous reprendre ma fille !»« Ce n'est pas moi qui le lui ai dit !» cria Nez en implorant son mari du regard. « Il a tout deviné et c'est tout au plus si j'ai répondu à ses questions. » Elle berçait l'enfant sur ses genoux comme s'il n'eût été qu'endormi. « Peu importe, répliqua Owen avec douceur, il ne se fait que les actes et ne se dit que les paroles qui ont été prévues et décrétées. Il y a bientôt 200 ans que j'étais destiné à l'œuvre que je viens d'accomplir. Les années m'attendaient. Lui-même n'ignorait pas le sort qui lui était réservé. » Pritchard connaissait la légende et croyait à la prophétie de Glendower, mais il ne se figurait pas qu'elle dût se réaliser maintenant. Il comprit néanmoins aussitôt les paroles de son gendre, et bien qu'il supposât que le jeune squire, en tuant son père, avait agi de propos délibérés, il ne songeait pas à blâmer Owen d'avoir tiré vengeance de la mort de son fils et puni le meurtrier du désespoir où cette mort avait plongé la pauvre nièce. Mais il savait qu'aux yeux de la loi, cette action, qui lui paraissait naturelle, passerait pour un bel et bon parricide et que les magistrats du pays, quelle que fût leur négligence à l'égard des crimes ordinaires, ne manquaient pas d'informer quand il s'agissait de la mort d'un homme aussi important que Sir Griffith. Il fallait donc, pensait le pêcheur, leur dérober le coupable, au moins pendant quelque temps. « Allons, ne prenez pas cet air désespéré, dit-il en frappant sur l'épaule de son gendre. Ce n'est pas votre faute puisque c'est le sort qui l'a voulu. Mais comment se fait-il que vous êtes tout mouillé ? « Ton mari est trempé, Ness. Voilà pourquoi il est si tremblant et si pâle. » La jeune femme posa dans son berceau l'enfant qu'elle tenait toujours et s'approcha d'Owen. Plongée dans une sorte de stupeur à force d'avoir pleuré, c'est à peine si elle avait entendu les paroles de son mari, et certes, elle ne les avait pas comprises. Son attouchement fondit la glace qui entourait le cœur d'Owen. « Ness, dit-il en la prenant dans ses bras, peux-tu m'aimer encore ?» « Pourquoi cesserai-je de vous aimer ?» lui demanda-t-elle, et ses yeux s'emplirent de larmes. « N'est-ce pas vous qui étiez le père de mon enfant ?»« Oui, mais si tu savais !»« Oh, dites-le-lui, Pritchard !»« À quoi bon ? C'est inutile, » répondit Elise. « Elle a déjà trop de chagrin dans l'âme. Dépêche-toi, ma fille, et va chercher les habits que je mets les jours de fête. »« Je ne comprends pas, » dit Nez en portant la main à son front. « Que doit me dire mon père ? Et pourquoi êtes-vous si mouillé ? Il faut que j'aie perdu la raison. Je ne devine pas le sens de vos paroles et je suis toute surprise de l'expression de votre figure. Je ne sais qu'une chose, c'est que mon petit enfant est mort, » ajouta-t-elle en fondant en larmes. « Allons, Ness, allons, occupe-toi des habits, » lui dit son père. tandis qu'elle obéissait avec douceur, ne cherchant pas à comprendre où son mari avait pu se mouiller de la sorte, Élise dit rapidement à Owen. « Ainsi donc, le squire est mort ? Parlez bas, de peur qu'elle ne vous entende. »« Bien, bien, il est inutile d'entrer dans les détails. Je comprends comment cela s'est passé. Nous devons tous mourir un jour ou l'autre. Mais il faut qu'on enterre. Par bonheur, il fait nuit. Je me demande si un petit voyage ne vous conviendrait pas. Cela ferait beaucoup de bien à votre femme. Ensuite, il en est d'autres qui sont sortis de chez eux pour n'y jamais rentrer. Le squire n'est pas au manoir, je suppose. Très bien, cela fera du bruit, on cherchera, on s'étonnera, on jasera, puis on finira par se taire, et un beau jour, le fils prendra possession de son héritage comme si de rien n'était. Soyez tranquille, vous reviendrez pour conduire Ness à Bodowen. Allons donc, enfant, ces bas ne valent rien. Cherche la paire que j'ai achetée dernièrement à la foire de Lyon-Roust. Ne vous désolez pas, Sir Owen, la chose est faite, on ne peut pas l'empêcher. C'est une besogne qui vous était commandée à ce que l'on prétend depuis l'époque des Tudors. Il le méritait bien, d'ailleurs. Regardez l'enfant qui est dans ce berceau. Dites-moi seulement où il est, afin que je m'occupe de la seule chose qu'on puisse faire actuellement pour lui. » Owen regardait fixement la flamme rutilante qui s'élevait du feu de tourbe et n'écoutait pas ce que lui disait Pritchard. « Il faut cependant en finir, » reprit Élise avec impatience au moment où la pauvre Ness apportait les habits qui lui avaient été demandés. Owen resta immobile et silencieux. « Qu'est-il arrivé, mon père ? » s'écria la jeune femme avec effroi. « Demande-lui toi-même, Ness, » répliqua le pêcheur. « Qu'est-ce que c'est ? » dit-elle en s'agenouillant pour regarder son mari. « Tu ne m'aimeras plus quand tu le sauras, Ness, » répondit-il d'une voix sourde. « Et cependant, ce n'est pas ma faute. »« Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais je vous aimerai quoi qu'il arrive. Ne me cachez rien, je peux tout savoir. » « Mon père est mort, » dit Owen après un instant de silence. « Que Dieu lui pardonne !» s'écria Ness en pensant à son fils. « Qu'il ait pitié de moi !» dit Owen d'un air abattu. « Est-ce que vous l'auriez ?» Elle n'acheva pas sa phrase. « Oui, c'était ma destinée. Comment aurais-je pu m'y soustraire ? Tu sais tout maintenant. Hélas, c'est le démon qui a été cause de sa chute. » « Moi, j'ai plongé pour le secourir, j'ai tout fait pour le sauver, Ness. Je me suis presque noyé. Mais il était mort, il s'était tué en tombant. »« Il est au fond de la mer ?» demanda Pritchard avec vivacité. « Non, il est dans mon canot, » répondit Owen qui tressaillit au souvenir de l'impression qu'il avait eue en soulevant le linceul. « Je vous en prie, changez de vêtements !» lui dit sa femme, à qui la mort de Sir Griffith paraissait indifférente. Pendant qu'elle aidait Owen à défaire ses habits et à revêtir ceux qu'elle lui avait apportés, Pritchard mêlait dans un gobelet énorme une liqueur spiritueuse avec de l'eau chaude et s'occupait du souper. À force d'instance, il parvint à faire boire un peu de son breuvage fortifiant à son gendre et à lui faire manger quelque chose, ainsi qu'à sa fille, qui, pour lui plaire, avala quelques bouchées de gâteau d'avoine. Tout en faisant les préparatifs du départ, et en pensant aux moyens à prendre pour cacher la manière dont le squire était mort, le pêcheur songeait avec orgueil que sa fille, malgré ses habits de paysanne et sa coiffure en désordre, n'en était pas moins en réalité maîtresse de Bodowen, la plus grande de toutes les maisons qu'il eût jamais vues depuis qu'il était au monde. Il fit avec adresse plusieurs questions à son gendre relativement à la mort de Sir Griffith. De son côté, Owen éprouvait un certain soulagement à parler de cet horrible malheur dont il avait besoin de rejeter la cause sur le hasard ou la fatalité. Et quand Élise eut terminé son repas, si toutefois on peut appeler ainsi la collation qu'il venait de faire, il avait appris tout ce qu'il voulait savoir. « Maintenant, dit-il à sa fille, couvre-toi bien. Fais un paquet de tes hardes les plus indispensables et dépêchons-nous car il faut que vous soyez au point du jour à moitié chemin de Liverpool. » Je vais vous conduire au-delà des sables de Rhyl, mon bateau aura le vôtre à sa remorque, et je reviendrai ensuite avec le produit de ma pêche afin d'apprendre comment les choses se seront passées à Bodowen. Une fois à Liverpool, vous n'aurez rien à craindre, personne ne vous connaît. Vous pourrez y attendre en toute sûreté qu'il vous soit permis de revenir au manoir. » « Je n'y rentrerai jamais, » dit Owen d'un air sombre. « C'est un endroit maudit. » « Bah, laissez-moi vous guider, jeune homme, » reprit le pêcheur. « Nous allons d'abord toucher à la pointe de l'île, dont l'ecclésiastique est un de mes petits cousins. Les Preachers ont connu de meilleurs jours, et nous le ferons enterrer là. Ce n'est qu'un simple accident. Vous pouvez relever la tête. Croyez-moi, vous reviendrez au manoir. Vous le remplirez d'enfants, et vous vivrez pour les bénir. » « C'est impossible, » dit Owen. « Je suis le dernier de ma race, et le fils a tué son père. » Nez arriva au même instant, couverte de son manteau et toute prête à partir. Pritchard éteignit le feu avec soin et ferma la porte du cottage. « Par ici, mignonne, » dit-il à sa fille, « donne-moi tout cela qui te gêne et suis-moi bien en descendant. » Owen, la tête baissée, marchait derrière eux sans rien dire. Nez donna le ballot de harde à son père et serra plus étroitement ce qu'elle tenait sous sa mante. « Personne que moi ne le portera » murmura-t-elle à voix basse. Le pêcheur ne fit pas attention à ses paroles et passa devant pour lui montrer le chemin. Son mari, qui l'avait comprise, vint auprès d'elle pour la soutenir et la bénit dans son cœur. « Nous partons ensemble, » lui dit-il, « mais qui sait où nous allons ?» En disant ces mots, il regarda les nuages que le vent chassait avec violence. « Une mauvaise nuit, » dit Pritchard en tournant la tête du côté des jeunes gens. « Mais n'ayez pas peur, nous dominerons la tempête. » Comme il approchait du rivage, il s'arrêta tout à coup. « Restez ici, » dit-il, « je peux rencontrer quelqu'un. Il est possible que l'on me reconnaisse et que je sois obligé de parler. Attendez-moi là, je reviendrai vous chercher. » Les deux jeunes gens s'assirent au bord du chemin. « Laisse-le-moi voir, Ness !» dit Owen à la jeune femme. Elle sortit de sous sa mante le corps de son enfant. Tous les deux regardèrent avec tendresse la figure du pauvre ange qui leur parut endormi. Puis ils l'embrassèrent et le recouvrirent avec respect. « J'ai cru, » dit Owen, lorsque le précieux fardeau eut été replacé sous la mante, « j'ai cru sentir que l'ombre de mon père s'est approchée de nous et qu'elle s'est inclinée sur la chère petite créature. » Un souffle étrange a frappé mon visage lorsque je me suis baissé vers l'enfant, et il m'a semblé voir l'âme innocente de notre fils guider celle de mon père et la conduire aux portes du ciel, malgré ces chiens maudits qui s'élancent du nord à la poursuite des âmes. « Ne parle pas ainsi, Owen !» lui dit Ness en s'attachant à lui. « Qui peut dire si personne ne nous écoute ?» Ils gardèrent le silence et restèrent plongés dans une terreur indicible, jusqu'au moment où ils entendirent Elise Pritchard qui les cherchait en disant à voix basse. « Où êtes-vous? Suivez-moi et surtout ne faites pas de bruit. On cherche le squire, madame est folle d'inquiétude, il y a du monde dans tous les environs. » Quelques instants après, les trois fugitifs s'embarquaient dans le bateau d'Elise. La mer était houleuse et battait la falaise, même en cet endroit protégé contre le vent. Et les nuages, déchirés et tordus par la tempête, courait avec force au-dessus des flots tumultueux. Le bateau-pêcheur sortit du havre où il était abrité, conduit par Pritchard, qui seul proférait de temps en temps quelques paroles brèves pour indiquer la manœuvre. Il se dirigea vers les rochers où le jeune squire avait amarré son canot. Mais lorsqu'il arriva, l'esquif n'y était plus. Sa chaîne avait été brisée et nul ne pouvait dire où l'avait jeté l'orage. Owen alla s'asseoir et se couvrit la figure de ses mains. Cet événement, si naturel et si simple en lui-même, frappait d'une manière étrange son esprit superstitieux. Il avait eu l'espérance de se réconcilier avec son père en déposant le corps du squire et de son enfant dans la même tombe. Il lui semblait maintenant que Sir Griffith se révoltait contre cette union peut-être sacrilège et qu'il n'avait plus de pardon à espérer. Pritchard envisageait le fait à un point de vue plus réel et plus grave. Si le cadavre du squire de Bodowen était trouvé dans un bateau que chacun savait appartenir à son fils, de terribles soupçons naîtraient de cette preuve accablante. Plus d'une fois dans la soirée, Pritchard s'était dit qu'il serait plus sage de donner à Sir Griffith la sépulture des marins, c'est-à-dire de coudre le mort dans un lambeau de voile, d'y attacher un poids considérable pour qu'il ne pût surnager, et de le jeter à la mer où il disparaîtrait sans retour. Nos fugitifs pourraient alors revenir à Tiglas, où ils attendraient que le jeune squire pût prendre possession de l'héritage du défunt. À moins que, trop bouleversé par les derniers événements, Owen ne préférât s'éloigner du pays jusqu'au jour où l'émotion causée par la mort de Sir Griffith serait complètement apaisée. Mais à présent, le retour immédiat n'était plus possible. Quelque déchaînée que fût la tempête, il fallait partir à l'instant même et se cacher à une certaine distance, au moins pour quelque temps. La nuit précédente, Élise n'aurait pas craint l'orage secondé par Owen tel qu'il était alors. Mais que devenir sans autre assistance que celle d'un homme égaré par le désespoir et qui acceptait la fatalité dont il se croyait poursuivi? Cependant, les fugitifs s'éloignèrent du rivage, assaillis au milieu des ténèbres par les vents et les flots, et jamais ils ne reparurent au regard des hommes. Aujourd'hui, le manoir de Bodowen n'offre plus qu'un amas de décombres noircis et humides, et c'est un Saxon qui possède le patrimoine des Griffiths.